10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent, alors c'est un rendez-vous que l'imam Abdelali Mamoun vous donne tous les samedis, une heure pour parler d'islam en direct sur Beurre FM, 10h, 11h. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, toutes mes sincères félicitations à Madame Serhan pour son anniversaire. Je lui souhaite plein de bonnes choses.
Et pour sa patience.
Hein?
Et pour sa patience.
Non. Je suis sûr qu'elle est comblée. Avec, qu'au contraire, elle est heureuse. Qu'elle vit le bonheur avec Mourad.
Voilà. Bien, l'émission est en direct. Hein. Vous pourrez poser tout à l'heure vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000. Nous allons parler du voisinage ce matin, imam Abdelali. Et que dit le Coran concernant le voisinage?
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent du voisinage dans le Coran. Il y en a un en particulier qui est dans Sourate An-Nisa, la Sourate 4, Sourate les femmes, où Dieu dit dans le Coran, je vais le dire d'abord en arabe, ensuite je vais le traduire en français.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches. Donc agissez aussi envers les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Dieu n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc ce verset-là, justement, donc, parle de des différentes catégories de personnes qui ont un droit envers chacun d'entre nous. Qui incombe à son égard, bien entendu, la bienfaisance, la bonté, la générosité, et être soucieux de son bien-être, etc. Donc c'est ihsan, comme on dit en arabe, est une injonction divine qui incombe d'abord, bien entendu, dans l'ordre des choses, aux parents, aux proches, aux orphelins, etc., etc. Donc il est impératif que dans l'ordre des choses, dans l'ordre de priorité, qu'on fasse preuve de bienveillance et de bienfaisance aux personnes qui viennent de citer, dont la liste a été citée dans ce verset du Coran. Donc les parents, bien sûr, ce sont les plus à même, les proches, c'est-à-dire la famille, qui sont les membres de notre famille. Ensuite viennent les orphelins, c'est les plus fragiles, bien entendu, les pauvres. Et puis, bien sûr, il vient après le pauvre, les proches voisins, le proche voisin. On ne parle pas d'un voisin qui est pauvre. On parle de simplement parce qu'il est ton voisin, il a un droit envers toi. Ce voisin-là, qui vit à côté de chez toi, tu as un devoir de bienveillance, de se soucier de son bien-être, et tu as, bien entendu, l'obligation, tafaqqud, c'est-à-dire le fait de périodiquement chercher à savoir comment il va. Et ça, ça perd beaucoup de sa valeur aujourd'hui dans ce monde un peu matérialiste dans lequel nous vivons, un peu égocentrique, un peu égoïste. Eh bien, ça se perd beaucoup et on a besoin souvent d'un rappel. Et en tout cas, le Coran est clair là-dessus. On ne peut pas ne pas prendre en compte ce voisinage. Il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit à ce sujet, qui est rapporté par Aïcha, radiallahu anha, qui dit « Jibril ne cessa de me recommander d'être bienveillant envers le voisin au point où j'ai cru qu'il allait en faire de lui un des successeurs. » Rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith-là, il est très fort. C'est que on a là la révélation, celle qui est faite par Jibril, alayhi salam. Bien entendu, lui ne tient pas des mots de sa propre initiative. Tout ce qu'il vient révéler au prophète émane, bien entendu, de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, puisqu'il est surnommé dans le Coran, je parle de l'archange Gabriel, Al-Amin, le digne de confiance. Donc c'est celui qui, avec Amana, c'est-à-dire avec confiance, vient révéler l'intégralité de ce que Dieu attend de son prophète, et bien entendu, derrière le prophète, tous les membres de sa communauté. Et il lui dit qu'il n'a cessé, il n'a cessé d'être bien, il n'a cessé de recommander le prophète sur la bienveillance envers le voisin, à tel point que le prophète, il a cru qu'à un moment donné, il allait en faire un héritier, c'est-à-dire qu'il allait en faire un membre de la famille qui a droit à un héritage à la mort de la personne. À tel point qu'il a cessé de dire « Ya Muhammad, Ya Rasulallah, Ya Habibi, Ya Rasulallah, attention, le voisin, prends soin de lui, sois attentif à son bien-être. » Et il n'a pas conditionné qu'il soit pauvre, dans le besoin, qu'il soit musulman, qu'il soit pas musulman. Il n'y a aucune condition, même y compris un voisin qui serait malveillant et malfaisant à ton égard. Tu te dois malgré tout de lui montrer de la bienfaisance et à la rigueur, lui montrer l'exemple. Si lui est malfaisant avec toi, eh bien toi, tu ne rentres pas dans son jeu...
De la provocation.
Voilà, tu rentres pas dans la provocation et tu rends le mal par le bien. Hein, tu essayes de rendre le mal par le bien. Peut-être que à travers ces actes que tu feras, eh bien, ça lui fera prendre conscience de la méchanceté gratuite et de l'injustice qu'il est en train de commettre envers toi. Beaucoup de gens surenchérissent malheureusement souvent dans leur relation avec le voisinage. Mon voisin, il m'a fait du mal une fois, ça y est, ben moi j'y vais, allez hop. Et puis commence un déferlement de malveillance.
Oui, d'actes, c'est l'escalade après.
Voilà, c'est l'escalade, c'est le cercle infernal. Ou est-ce que tu m'as fait ci, je te fais ça, je te refais ci, et malheureusement, on ne peut pas sortir de cette situation-là puisque c'est un voisin. On ne peut pas se sauver, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas s'en préserver. Il habite à côté de moi. Donc c'est fondamental. Le prophète disait, demandait à Dieu et implorait son Seigneur du mauvais voisin et en expliquant, en disant justement « Fa'in al-jar » car le voisin ne peut pas, on ne peut pas s'en préserver puisqu'il reste à côté de nous. On ne peut pas dire « Allez bon, je vais me préserver du mal, je vais partir ». Eh ben, si à chaque fois je dois partir de chez moi parce que j'ai des voisins malveillants, je m'en sors plus. Non, il faut impérativement. Donc de ce fait, si tout un chacun fait un effort pour être bienveillant, eh bien tout le monde serait heureux de pouvoir vivre tranquillement et paisiblement.
Alors Imam Abdelali, que signifie cette parole prophétique ? J'ai cru qu'il allait faire de lui un successeur.
Eh bien, c'est justement ce que j'évoquais juste avant, ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, ô combien significatif que le croyant se doit d'être bienveillant avec ses voisins de la même manière qu'il l'est avec ses propres héritiers. C'est-à-dire que, voilà, moi je fais attention à mes héritiers, c'est-à-dire mes enfants, mes propres enfants, mes frères, mes sœurs, mes parents, ma famille, mes proches. Hein, je suis... j'ai cette fibre paternelle, j'ai cette fibre maternelle, fraternelle, qui m'impose d'être gentil, d'être affectueux, d'être soucieux de leur bien-être, de m'interroger sur ce qu'ils font. Périodiquement, je les appelle, je demande leurs nouvelles, comment ils vont, etc. Comment va la famille? Eh bien, le Coran, le prophète, à travers cette injonction émanante de l'archange Gabriel. Alors on cite bien qu'il s'agit bien de celui qui est à l'origine de la révélation. C'est une sorte de forme, c'est une forme de révélation, on va dire, abstraite et non pas basée sur des textes. Ce ne sont pas des textes coraniques comme il le fait d'habitude avec des versets du Coran, mais ce sont simplement des recommandations. Jibril venait me disait, ton voisin, est-ce que tu as pris soin de ton voisin? Est-ce que ceci? Donc ça se transformait en forme d'injonction indirecte venant de son Seigneur à travers justement cette constante recommandation que faisait l'archange Gabriel à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des voisins et de la bienveillance à l'égard des voisins.
Mais est-ce que les voisins ont les mêmes droits que la famille? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre?
Non. Dans l'ordre des choses, ce sont d'abord la famille, les proches qui ont plus de droits envers toi, bien entendu. Et viennent tout de suite après les voisins. Donc finalement, ils ne sont pas très loin derrière. C'est-à-dire, bien sûr, il y a d'abord les parents. Hein, pas loin derrière, les frères et sœurs et les enfants. Mais d'abord, c'est les parents. D'abord, même la mère, on va dire. En premier, tout en premier, c'est la maman. Dans l'ordre des choses, c'est maman, ensuite papa, ensuite les frères et sœurs, les enfants, etc., etc. Les autres membres proches de sa famille. Et ensuite viennent les voisins, et ensuite viennent l'orphelin, et ensuite viennent les pauvres, etc. Dans l'ordre des choses. Donc, à partir de là, on a un voisin qui a des droits envers nous et que le croyant, comme le dit le prophète alayhi salat wa salam, ne pourra pas le prétendre, c'est-à-dire être croyant, alors qu'il sait qu'il dort ce soir, le soir repu, c'est-à-dire rassasié, avec le ventre plein, et il sait que son voisin à côté de chez lui, lui est en train de se plier en deux de faim, il n'a pas su trouver le repas de midi et du soir, ni rien du tout, il dort à jeun, sans avoir la possibilité de se nourrir. Eh bien, le prophète considère que cet homme qui sait que son voisin est dans cet état-là, et qui dort lui tranquillement, paisiblement, sur ses deux oreilles, eh bien, n'est pas un croyant. Il ne l'est pas. Il ne peut pas le prétendre. Il a un devoir de solidarité à l'égard de son voisin. Il doit venir toquer à la porte et partager son repas avec lui s'il sait qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Il y a un cheikh, une fois, qui nous raconte une histoire, Philippe, d'un vieux français qui s'est converti à l'islam, qui est venu à la mosquée, et il a demandé à l'imam de se convertir. Sauf que l'imam connaissait ce vieux, c'était un français non musulman, qui était d'origine non musulmane, et il est étonné de le voir venir se convertir. Il lui dit, mais pourquoi tu te convertis? Il a dit, je pense aujourd'hui que l'islam est la vraie religion. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui t'a fait croire cela? Et alors que moi je te connais, et on entend parler de toi, que tu fais l'objet d'un mauvais voisinage, c'est-à-dire de jeunes garçons malveillants qui tous les mois saccagent ton appartement, volent ton argent, vont même voler ce qu'il y a sur ton compte bancaire, ils te font passer une vie, la misère, quoi. C'est-à-dire que le pauvre, il vit un enfer à cause de ses mauvais voisins.
Et malgré ça,
il vient. Ouais. Et alors qu'il sait que c'est des musulmans, c'est-à-dire que ce sont des enfants, des jeunes délinquants, des jeunes voisins délinquants du quartier qui lui font vivre la misère. Et alors que c'est des musulmans, il se dit, normalement cette religion, il devrait la haïr, devrait faire partie au moins de Le Pen, voire Zemmour, au moins minimum.
C'est la livre.
Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas
mal aux oreilles.
Je sais que ça fait mal aux oreilles. Je sais. Mais bon, c'était pour expliquer que cette personne-là, normalement, devrait se radicaliser dans un racisme anti-musulman, islamophobe. Eh bien non, il se convertit à l'islam. Et là, l'imam insiste, il dit, mais explique-moi, faut que tu m'aies... c'est pas possible, c'est illogique ce que tu me dis là. Comment ça? Tu as des musulmans qui te font du tort tous les jours, ils te font vivre un enfer, un véritable calvaire dans ta vie quotidienne, et toi, tu viens, tu embrasses leur religion. Et il a dit, ouais, mais il y a quelque chose que tu sais pas. Il dit, c'est qu'au-dessus de moi, j'ai une voisine, Shibania, qui elle est musulmane, qui tous les jours à midi elle m'apporte à manger et tous les soirs elle m'apporte à manger. Et j'ai compris ce jour-là que ce que faisaient ces garçons n'était pas l'islam et ce que faisait cette dame était l'islam. Et il s'est converti grâce à cela. Donc cela montre combien il y a des gens qui font barrage à l'islam et combien il y a des gens qui ouvrent le cœur grâce à leur générosité, à leur bienveillance envers les gens autour desquels ils vivent. Et donc le croyant, le musulman, est dans ce devoir d'être bienveillant à l'égard de son voisin, y compris même ceux qui ne sont pas de sa confession. On a un hadith qui est rapporté dans le Bukhari qu'un jour, alors qu'un mouton a été tué chez Ibn Omar, le fameux compagnon du prophète, Ibn Omar, radiallahu anhuma, ce dernier demanda à deux reprises. C'est-à-dire, le prophète demanda, avez-vous offert une part à notre voisin juif? Avez-vous offert une part à notre voisin juif? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, tout comme ses compagnons et ses épouses, par la suite, était généreux avec ses voisins, qu'ils soient musulmans, juifs ou incroyants, ou chrétiens ou autres. Donc, le musulman, il est généreux avec son voisin et il ne peut pas ne pas respecter les devoirs qui lui incombent envers son voisinage, et elles sont très nombreuses. On verra ça peut-être après la pause, c'est ça, Philippe?
Oh, vous êtes formidable. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui?
Je suis pas.
J'ai vu ça, l'imam Abdelali.
En harmonie avec le temps.
Vous êtes incroyable.
J'ai senti Faudel derrière.
Comment c'est? Ah, c'est même pas moi. Ah, c'est pas moi.
J'ai vu dans le coin de l'œil, là.
C'est pas moi. C'est genre, l'imam Abdelali Mahmoud m'envoie des vidéos sur TikTok. Bon, bref, parce qu'il est très branché. J'ai envoyé votre vidéo à Jakarta.
Ouais.
Vous êtes pas bienvenu, hein.
Bah écoute,
votre tournée à Jakarta est annulée.
Savoir, est-ce que c'est un fake ou c'est...
Mais c'est un fake.
C'est un fake.
Ah non, je vais vous montrer la réponse parce qu'imam, vous êtes trop sur TikTok, vous. Hein.
Bah non, pas sur TikTok, surtout les réseaux sociaux. On regarde ce qui se passe.
Notre ami Warsito, il a été nommé numéro 2 du ministère de la Culture à Jakarta.
Eh bah ben c'est super.
Donc je lui ai envoyé hier Et je lui ai dit, regarde ce que m'envoie l'imam Mamoun.
Non, mais est-ce que ça existe? Peut-être c'est qu'il y a tellement d'îles, il y a tellement d'îles isolées.
Sur l'islam indonésien.
Mais pas toute l'Indonésie, mais peut-être qu'il peut y avoir
des groupuscules. C'est une secte.
Ouais, c'est une secte. Donc, elle existe.
Non, c'est une secte.
Oui, mais alors, est-ce qu'elle existe ou c'est un fake?
Alors, les sectes, c'est des sectes.
J'ai bien compris. Ben alors, pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'il s'agit d'une secte où, pour
sur une île en
obtenir
Indonésie,
la bénédiction divine, voilà, ouais. Il faut pratiquer l'adultère. C'est-à-dire qu'il faut venir dans un temple et pratiquer l'adultère pour justement obtenir la satisfaction divine, ce qui est bien entendu totalement incompatible avec l'islam.
Ouais, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, moi,
à
cause de vous.
Mais je suis tombé sur ça, je suis tombé de haut. Je dis, c'est quoi ce délire, là? C'est bizarre. On connaît l'Indonésie comme un pays très respectueux et très vigilant au respect des règles de l'islam, et là je vois du tout et n'importe quoi. Un gourou
non mais sur les réseaux sociaux,
reçoit des femmes qui leur dit, si vous voulez obtenir satisfaction et que Dieu exauce vos prières, il faut forniquer, il faut pratiquer l'adultère. C'est incroyable. Un truc de malade.
Bien. Alors, voilà. Vous pourrez poser vos questions à l'imam Abdelali dans un instant. Notez le numéro du standard de l'islam au présent. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, et l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
01 53 48 3000, vous pouvez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun. Et si vous voulez entendre les auditeurs, imam Abdelali, il va falloir mettre votre casque. Voilà.
Ouais.
Et ça, l'arsène. L'arsène, parce que vous avez réglé le son de votre casque. Là, vous allez pouvoir entendre Saba, qui est avec nous au 01 53 48 3000. Saba, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Saba.
Bonjour, salam alaikum.
Je voudrais juste poser une question concernant le jour de rattrapage du Ramadan. Moi, en 2021, j'étais enceinte, donc du coup, j'ai pu faire aucun jour. J'ai pu rattraper 25 jours en 2022 parce que du coup, j'ai allaité mon enfant pendant un an. Du coup, il me restait des jours de 2022 et que je ne peux pas rattraper actuellement parce que j'allaite le deuxième bébé. Donc, je voudrais savoir comment faire, si je suis dans le tort ou pas, ou je peux rattraper encore tout ça ou pas.
Écoutez, normalement, chaque jeûne doit être géré courant de l'année qui suit le jeûne du Ramadan. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accumuler des dettes année après année du jeûne que l'on a laissé précédemment. D'accord ? Tout jeûne doit être géré avant le Ramadan suivant. À tel point que Aïcha radiallahu anha a considéré que c'était tellement détestable que celui qui commettait cette erreur de cumuler des jours de jeûne, le rattrapage des jours de jeûne, devait subir la double peine. À la fois s'acquitter de la fidia et à la fois jeûner. En plus de jeûner, de rattraper en jeûnant, il doit jeûner plus payer chaque jour non jeûné de l'année précédente qui a été retardé jusqu'au Ramadan suivant. Eh bien, de subir la double peine. En principe, quand vous gérez votre Ramadan qui vient de se terminer, dans lequel vous n'avez pas jeûné quelques jours, vous vous posez la question, est-ce que je serai en mesure, à un moment donné, du courant de cette année, de rattraper mon jeûne en jeûnant? Si c'est le cas, vous ne versez rien du tout, vous attendez le moment où vous êtes rétabli, que vous êtes apte, à jeûner, soit parce que vous n'allaitez plus votre enfant, etc. Et là, vous allez jeûner les jours de jeûne que vous n'avez pas accomplis l'année qui vient de passer. Par contre, si vous pensez, parce qu'un enfant, souvent, on va l'allaiter plus d'un an, et que donc vous craignez que votre lait se tarisse, c'est-à-dire que vous craignez que
j'avais peur de ça et du coup j'ai pas pu rattraper, sachant que en 2021 c'était vraiment un mois entier parce que j'étais en fin de grossesse et que j'avais une grossesse compliquée, donc les médecins m'ont dit de ne pas jeûner, chose que j'ai pas faite. Donc du coup l'année d'après, sachant que j'ai allaité un an, du coup le Ramadan 2022 du coup est arrivé, j'ai pu faire un maximum de 25 jours mais il me restait 5 jours à faire et j'étais encore tombée enceinte, du moins en 2022, donc j'ai jeûné 2022 avec une grossesse, début de grossesse de la deuxième, et du coup actuellement j'ai accouché il y a 2 mois, je peux pas rattraper les 5 jours qui me restent avant le prochain.
D'accord, donc si vous savez, comme je vous le dis, que vous ne pouvez pas rattraper votre jeûne jusqu'au Ramadan suivant, vous vous acquittez de la fidia. Vous versez pour chaque jour non jeûné. Allez, maintenant, cette année, probablement, on va faire au moins 6 euros. 6 euros la fidia.
Là, pour le coup, avec l'inflation.
Ouais, avec l'inflation, au moins 6 euros. Là, on ne peut plus parler de 5 euros la fidia. Un repas, c'est au moins 6 euros. Donc, voilà, vous versez pour chaque jour non jeûné 6 euros. Et c'est tout. Et c'est tout.
Non,
vous ne rattrapez rien du tout. Non, vous ne rattrapez rien. Puisque vous n'avez pas ajourné votre jeûne jusqu'au ramadan suivant. Vous l'avez géré courant de l'année qui a suivi le ramadan. Donc, si vous avez géré les choses durant le ramadan, c'est après le ramadan, eh bien, vous n'avez pas attendu jusqu'au ramadan suivant pour rattraper ou verser la fidia. Vous n'êtes pas assujetti à la double peine. Donc là, vous ne versez que la fidia. Puisque
non,
vous,
c'est
vous
le ramadan de 2021. Les
jours,
les 22, je l'ai fait
c'était
complètement.
C'était il y a deux ans.
Ah, c'était il y a deux ans. Oui, mais bon, vous, là, vous me dites que vous, êtes, vous n'êtes pas en capacité de jeûner, c'est bien ça?
Actuellement, le prochain, Inch'Allah, je vais pouvoir le faire.
Là, je vous parle de maintenant, avant le ramadan suivant. Maintenant, là.
De maintenant, là, tout de suite, là, maintenant, ça va être vraiment compliqué. Enfin, j'allais être. Mon enfant, il est
voilà,
pas.
Vous allaitez, dites-moi, vous allaitez. Vous allaitez, on est bien d'accord?
Oui.
Voilà, c'est bon. Donc, vous n'êtes pas en mesure de jeûner. Donc, vous versez la fidia maintenant. Et quand vous pourrez, dans l'avenir, quand vous pourrez, vous comptez, vous gardez ces nombres de jours à l'esprit, que dès que vous avez l'occasion de les rattraper, vous les rattrapez.
Mais moi, je comprends pas, parce que là, on parle pas du dernier ramadan. On parle de l'avant-dernier.
Ouais, c'est l'année d'avant.
Donc, est-ce qu'il faut aussi rattraper ou une fois qu'on est arrivé, on a terminé le ramadan qui suit, on peut plus rattraper?
Non, on peut rattraper. Ça reste une dette. On doit rattraper l'autre jeûne, ou bien sûr, compenser ce rattrapage par la fidia. C'est normalement quand le ramadan se termine, si courant de l'année qui suit, vous gérez, c'est-à-dire soit en jeûnant, parce que vous pouvez jeûner, ou bien vous versez la fidia parce que vous n'étiez pas en mesure de jeûner, eh bien c'est bon, vous avez fait ce
que vous avez à faire. Mais là j'ai compris, mais là on parle du ramadan de l'année dernière. Mais sur le ramadan d'avant.
Mais pourquoi elle a laissé traîner, elle a pas tout de suite versé la fidia? Eh ben tu as allaité, il fallait verser la fidia, c'est tout. On verse la fidia et c'est bon.
En fait, je croyais que j'avais mon pouvoir de le faire à la fin. Sauf que le timing était très court et que j'ai dû quasiment faire 2 mois d'affilée car c'était vraiment à la fin de l'allaitement que j'ai pu faire. Les rattrapons tenaient qu'à 25 sur 30.
Et vous reste combien de jours? 5 jours?
5
jours. Bon, ça reste une dette, 5 jours. Pour l'instant, avant le ramadan prochain, vous versez la fidia de 6 euros par jour non jeûné. Assalamu alaikum, et c'est bon. Et c'est bon. Et quand vous aurez l'occasion, vous jeûnerez ces 5 jours.
D'accord. Merci beaucoup,
Bakla. Je vous en prie, ma soeur. Merci. Donc 2 ans après, ça reste une dette, il faut la payer.
Disons que courant de l'année, ça aurait pas été une dette. Si je gère mes dettes courant de l'année qui suit, ça n'est plus une dette. Soit je verse la fidia, du moins soit je jeûne, et soit parce que je ne peux pas jeûner, je verse la fidia.
Et là, je suis d'accord, c'est parce que c'est l'année qui suit. Mais là, on n'est plus l'année qui
suit.
Mais
pourquoi? Mais c'est ça que je rappelle à nos chers auditeurs et auditrices. Il ne faut pas attendre que le ramadan passe pour rattraper votre jeûne. Soit vous le rattrapez parce que vous êtes en mesure de le jeûner. Vous jeûnez, il faut le jeûner avant le ramadan suivant. Parce que vous pouvez jeûner. Si maintenant vous ne pouvez pas jeûner, vous versez la fidia. Et si maintenant vous n'avez ni jeûné, ni versé la fidia jusqu'au ramadan suivant. Selon Aïcha, je vais dire, c'est un avis parmi d'autres, qui dit que vous êtes assujetti à la double peine. À la fois vous versez la fidia, et à la fois, dès que vous avez l'opportunité, vous rattraperez votre jeûne.
C'est ça que je voulais vous entendre dire. C'est la règle. C'est la règle. Si on n'a pas fait dans l'année qui
suit. Voilà. Je répète que c'est un avis. C'est un avis. Il y a d'autres avis. Ça, par exemple, c'est l'école malikite qui dit ça. Les autres écoles, par exemple, il y en a qui disent que non, on a juste à rattraper. On rattrape le jeûne et c'est tout. Il n'y a pas de fidia. Dès qu'on a l'occasion, on rattrape le jeûne et c'est tout. Ou bien on verse la fidia, on s'acquitte de la fidia parce qu'on ne peut pas jeûner. En l'occurrence, madame là ne peut pas jeûner. Moi, je lui dis au moins qu'elle paye la fidia.
De toute façon, les questions là sur les règles de rattrapage vont. C'est le moment.
On en parlera. Oui, c'est vrai, on peut en parler maintenant.
C'est le moment.
Surtout que là, on arrive dans un nouveau mois qui est le mois sacré de Rajab. C'est le 7e mois béni de Dieu qui est un mois sacré. Un mois sacré, vraiment un mois sacré. Min al-Ashhuril Hurm, on appelle ça, qui est comparable aux 3 autres mois successifs, qui sont le 11e de l'Qaïda, le 12e de l'Hijja et Muharram, qui est le premier mois du calendrier lunaire.
Parce qu'il y a quatre mois sacrés.
Voilà. Minha arba'atun hurum, comme dit le Coran. Donc ces quatre mois, l'un d'entre eux, c'est ce mois-là dans lequel nous allons entrer incessamment sous peu, et qui est béni, puisque le prophète, dès qu'arrivait le mois de Rajab, faisait cette invocation. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ô mon Dieu, bénis-nous le mois de Rajab et de Sha'ban et permets-nous d'atteindre le mois du Ramadan pour que nous puissions jouir de sa bénédiction. Hmm. Pour dire qu'il est encore plus béni que Rajab et Sha'ban. Ramadan, c'est plus béni, mieux, c'est un mois meilleur que Rajab et Sha'ban.
Parce que c'est un mois béni.
C'est, mais les autres aussi sont bénis, mais moins que Ramadan. Voilà. Il faut expliquer.
Ce n'est pas
ça.
Un mois sacré.
Mais le mois de Ramadan n'est pas sacré. Mais voilà, c'est qu'il y a la sacralité et il y a la bénédiction, ce sont deux choses différentes. La baraka, ce n'est pas la sacralité. Par exemple, on dit, quand on parle de la mosquée de Jérusalem, que c'est un lieu sacré. C'est pas vrai. Ce n'est pas un lieu sacré. C'est un lieu béni. Dans le Coran, il est dit, gloire à Dieu, subhanalladhi asra bi abdihi laylan, qui a fait voyager son serviteur la nuit. Min al-Masjid al-Haram alladhi ila al-Masjid al-Aqsa, de la mosquée sainte de la Mecque, de la mosquée sacrée de la Mecque, al-Masjid al-Haram, donc il y a la notion de hurma qui est la sacralité, ila al-Masjid al-Aqsa, vers la mosquée de l'Aqsa, c'est-à-dire à Jérusalem. Alladhi barakna hawlahu, cette mosquée-là dont l'entourage a été béni. Donc c'est un lieu béni par Dieu, mais ce n'est pas un lieu sacré. Ça soit bien clair. Jérusalem n'est pas le troisième lieu sacré de l'islam. C'est la troisième mosquée importante en islam, mais les lieux qu'on appelle sacrés, c'est la mosquée de la Mecque et ensuite la mosquée de Médine.
Il n'y en a que deux.
On dit al-Haramayn al-Sharifayn, pas Thalith al-Haramayn, comme certains voudraient nous le faire croire, qu'il existerait un Thalith al-Haramayn qui serait le Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, est bénie, mais pas sacrée. Voilà, que ça soit clair.
Voilà. On va vous servir un verre d'eau. Allez, d'autres questions à l'imam Abdelali Mamoun dans un instant. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et bien sûr, le mois du Ramadan, vous le vivrez sur Beurre FM comme tous les ans, hein, puisque l'imam Abdelali sera avec vous tous les soirs de ce mois de Ramadan à partir de 18h cette année.
Mashallah.
Compte tenu des horaires, ça augmente. Alors là, cette année est un peu compliquée parce qu'on va démarrer en horaire d'hiver.
Ouais, on aura une semaine, je crois.
Et le samedi, on passe aux horaires d'été.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire
on va rompre le jeûne à comment ça s'appelle?
À 19h la 8, première 8, semaine. Ouais, 7, 19h07. 7, le 8. Premier jour, normalement. Et après.
Ça sera 20h. Enfin, on va démarrer 21h.
Diesel. Tranquille.
Ouais, tranquille.
Et après, cool. Ça va
augmenter.
Mais bien sûr, vous vivrez ce Ramadan 100% en direct sur Beurre FM cette année. Alors, l'imam Abdelali Mamoun.
Un chat dans la gorge.
Ah, c'est pas un chat, c'est un tigre. On va vous servir quelque chose de bon. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun qui répond à vos questions en direct au 01 53 48 3000. Alors, on a Fouzia qui est avec nous. Fouzia, vous êtes la bienvenue sur
Bonjour,
le réseau.
Bonjour, salam.
Wa alaykoum salam.
Salam al-Hajj. Moi, je suis très malade.
Allah yashafik, Allah yajib shifa, inshallah. Sallallahu alayhi wa sallam, Rabb al-Arsh al-Azim yashfiak. اللهم رب الناس ذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير الله يشفيك الحاج ربي يحفظك.
Voilà, Fouzia qui voulait une loi de l'imam Abdelali Mamoun. Tous nos voeux de santé vous accompagnent et de rétablissement, Fouzia. On a Smaïl qui est avec nous. Smaïl, bienvenue.
Allô?
Oui, Smaïl, bienvenue.
Naam, ya Smaïl.
Bonjour.
Bonjour.
S'il vous plaît, je voudrais parler à l'imam.
On vous écoute, je suis là, je vous entends.
Je voulais savoir si pour la FIDIA, cette année, c'est combien?
Alors, avec l'inflation, on a supposé qu'il fallait au moins ajouter 1 euro à ce qui était déjà imposé, c'est-à-dire 5 euros plus 1 euro, ça fait 6 euros. Donc 6 euros pour chaque jour non jeûné, si vous êtes bien entendu atteint d'une maladie chronique, une maladie incurable qui vous empêchera à vie de jeûner. Là, vous versez la FIDIA.
Oui, je sais que parce que si je ne suis pas très malade, vraiment grave, d'habitude je fais mon ramadan normalement, tranquille.
D'accord.
Mais l'année passée, j'ai une maladie de... le diabète, en même temps j'étais greffé du foie. Je prends les médicaments anti-greffe là, pour
Oui, oui, j'ai compris.
Tous les matins à 8h30.
Donc vous n'êtes pas concerné par le jeûne, ok, Inch'Allah, il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire l'année passée, j'ai payé 150 euros, je voulais savoir cette année, c'est combien?
Cette année, comme il y a eu l'inflation, il faut au moins ajouter 1 euro.
Ça fera au moins 180 euros. Quoi,
ça fait pour le mois. 6 fois 3 fois 6, 18, 180 euros au lieu de 150.
Il n'y a pas de souci.
Ayallah, Ishafik, Akhoya.
Rabbi, Jabal, Shifa.
Wa alaykoum salam.
Merci, Smaïl. Habib est avec nous au 01-53-48-3000. Habib, bienvenue.
Oui, bonjour, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, wa rahmatoullah. Naam, Akhoya.
Oui, merci. Déjà, je voulais souhaiter la guérison à la dame qu'il y a eu à part longtemps.
Et le monsieur aussi. Et les deux.
Oui, le monsieur aussi.
Gamardanes.
Voilà, amen.
Kallah, Ishafines.
Et j'avais une question pour moi.
Je voudrais dire ça en ouvrant une petite parenthèse. On arrête de faire des du'a aux musulmans. Ndiyou galnes, ala ndiyou ril muslimin.
Bien sûr, bien sûr.
C'est important. Il faut faire du'a à tous les gens, pas que aux musulmans seulement.
Les du'a, c'est puissant pour toute l'humanité, alhamdoulilah.
Voilà pourquoi être réducteur et limiter ça aux musulmans.
Mais là, en l'occurrence, j'ai voulu parler pour elle parce qu'elle m'a touché, quoi.
Ah, khair, c'est vrai.
Du coup, moi, j'ai une question pour vous, parce qu'en fait, je la trouve un peu complexe et j'ai pas les compétences pour y répondre moi-même. Je voulais savoir, en fait, par rapport aux incitations, j'ai vu que dans le Coran, on dit que l'âme, il a incitation, il a tendance à inciter au mal. Et que...
Pas toujours, hein, pas toujours, hein. Attention.
Pas toujours,
L'âme, c'est un animal sauvage que l'on va domestiquer, que l'on va dompter. Si tu arrives à le dompter, il peut effectivement s'apaiser et devenir une nefs mutmainne.
Voilà,
en passant par l'état de nefs l'amar, nefs l'awama. Vous avez aussi nefs l'awama, cette âme qui se fait des reproches, qui constamment se reproche le mal, les imperfections, les turpitudes qu'elle peut commettre. Donc effectivement, il y a des étapes d'évolution spirituelle.
C'est ça. Et en fait, je voulais justement savoir comment on peut différencier justement l'incitation qui vient de cette âme ou l'incitation qui vient de Shaitan.
C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas le même ennemi.
Pas le même ennemi.
C'est un ennemi, le Shaitan. C'est un ennemi pour vous, considérez-le vous aussi comme un ennemi. Donc
et ce que je comprends, c'est qu'on nous incite à le connaître justement pour savoir ce qu'il veut de nous et nous
on
doit
faire. De connaître qui? Le diable.
Shaitan,
il n'y a pas besoin d'en savoir grand chose. Hein. Tout ce que peut émaner de toi de mal, il le fera. Par contre, il est faible.
Voilà, c'est ça.
Faut pas croire, supposer qu'il est suffisamment puissant pour nous dominer le corps. Et de toute façon, s'il nous domine, il sait très bien que Dieu nous en tiendra pas compte, puisque tout acte qui a été fait sous la contrainte n'est pas valable. Alors lui, ce qu'il veut, c'est que le mal vienne de toi. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de le faire. Et non pas lui qui t'oblige et te force à le faire. Donc ça, c'est important de savoir. Le diable, non seulement il n'a pas le pouvoir de le faire, de l'imposer, et il sait que ça ne sert à rien de l'imposer parce que Dieu nous en tiendra par rigueur.
Par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut, c'est que par la permission que les choses se passent.
Oui, certes, mais n'empêche que le diable n'a pas la force, la puissance d'imposer, d'obliger. Hein, dans le Coran, il est clairement dit, le jour de la résurrection, illa an da'awtukum fastajabtum li, yani wa ma kana li 'alaykum min sultan, dit le Coran sur les mots du Shaitan, que moi je n'avais aucun pouvoir sur vous, dira le Shaitan aux hommes. qui ont été égarés. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Si ce n'est que je vous ai invité à commettre le mal, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Et vous, vous avez répondu favorablement à ma demande. Donc à partir de là, le diable n'a pas ce pouvoir de vous obliger. Et même s'il l'avait, ça ne servirait à rien. Parce que Dieu considère qu'un acte qui a été accompli sous la contrainte n'est pas assujetti à une sentence ou une punition, puisque
donc du coup en fait, pour différencier l'incitation qui vient de l'âme ou qui vient de Shaitan, c'est à moi que je dois le différencier par rapport à ce que j'ai appris du Coran.
Alors souvent le Shaitan, il vient sous forme d'insoufflerie, de soufflerie de démoniaque, c'est-à-dire il vient te tourmenter. Il vient te pourrir la vie dans ta tête et il te vient un petit peu à des moments où est-ce que tu es dans un coup de blues et il vient te faire des mauvaises pensées dans ta tête. C'est à ce moment-là qu'il voit que tu es fragile et que tu es réceptif. Donc il vient à ce moment-là. Alors que la nafs al-amara, c'est différent. Elle est liée aux passions. Elle est liée à tes envies, on va dire, animales, à ce qu'on appelle shahawat. Elles sont liées à tes envies. Donc c'est à toi d'éduquer ton âme, ne pas la laisser faire ce qu'elle veut, hein. Par exemple, ta tête te dit voilà, va avec tes potes, voilà, je sais pas moi, commettre l'adultère, etc., ou faire des choses, voilà, qui sont pas licites. Eh bien, c'est à toi de contrôler ton alter ego, c'est-à-dire cette âme passionnelle qui te dit allez, laisse-toi faire, tout ira bien, alors que finalement, ça n'est que le fait de se jeter dans un gouffre de l'enfer. Donc faire attention à son âme passionnelle, qui est le pire de nos ennemis, c'est le pire, le prophète le dit, hein. Le pire de tes ennemis, c'est ton âme qui est entre tes deux côtés.
Voilà, Habib, merci pour votre question. On accueille Malika au 01 53 48 3000. Malika, vous êtes la bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour l'imam. Moi, bonjour. Je voulais te poser une question je vais faire vite, sur le mariage religion. Oui. Religion, est-ce que, par contre, voilà, parce que quand on a été marié divorcé, donc j'ai plus de 50 ans, et bon, après je fais pas des rencontres, mais je croise, par rapport quand la personne me dit il faut se connaître, d'accord. Mais est-ce que le fait de faire que le halal, ça passe ou pas?
Ben oui, bien sûr, à partir du moment où vous avez fait un halal, vous êtes marié.
Oui, mais il y a d'autres imams qui disent, bon, après, c'est pas chacun sa version, donc il faut un acte à la mairie.
Alors, c'est deux choses différentes. Il faut distinguer. Ouais. Juste laissez-moi répondre. Il faut distinguer ce que dit la loi musulmane et ce que dit la loi française. La loi française dit qu'il est interdit à un ministre du culte de célébrer des mariages religieux s'ils ne sont pas précédés d'un acte civil. D'accord?
Voilà.
Ça veut dire que si vous ne respectez pas ça, l'imam, pas le couple n'est pas concerné par la loi, du moins sur le code pénal, qui dit que l'imam ou le curé ou le rabbin ou le ministre du culte en général, hein, il s'agit pas que d'une question relative à l'islam, hein, toutes les religions confondues, eh bien, si ce ministre du culte, c'est-à-dire cet imam, ce curé, ce rabbin, etc., célèbre de manière habituellement des mariages religieux avant le mariage civil, est passible de 6 mois de prison et de 7500 euros d'amende.
Ouais.
D'accord. Ça, c'est la loi. Donc, lui, l'imam, il a peur de la loi. C'est normal. Il craint de se retrouver en prison et d'avoir poursuivi en mise en examen, etc., et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Non, lui, il vous dit, madame, moi, je suis là pour respecter la loi. On est dans un pays de droit. Il faut respecter la loi. D'accord. Donc lui, il dit, moi, et là, la personne dit, ouais, mais c'est la loi de Dieu avant la loi des hommes. Il dit, oui, d'accord, ouais. Bah, à ce moment-là, débrouille-toi, trouve un imam, ou tout simplement célèbre ton mariage sans avoir besoin nécessairement d'un imam, puisque le mariage en islam, ce n'est pas l'imam qui le déclare.
C'est pas obligatoire.
Non, il n'y a pas besoin d'imam. À partir du moment où vous connaissez les règles, c'est bon. Il faut le tuteur, le représentant de la femme. Deux témoins, le tuteur, et puis le marié, une dot. Et voilà, elle dit je te donne la main de ma fille, de ma sœur, etc. Si c'est un membre de votre famille qui vous représente,
ça,
et l'autre répond j'accepte la main, et voilà, et moyennant la dot, etc.
Oui, parce que bon, autour de moi j'en ai connu qui devaient donner la dot, qui l'ont. Bon, c'est pas pour moi, c'est des connaissances que j'ai eues, qui avaient fait tout ça, mais aucune dot, il y avait rien, tout ce qu'il avait dit, ça a été pas respecté.
Bah écoutez, voilà. Donc à ce moment-là, la dame n'a qu'à réclamer cette dot avant la consommation, c'est-à-dire avant de vivre avec cet homme.
Ah non, ils ont consommé bien avant.
Eh ben, c'est une erreur. Ouais. La
BAM ne et maintenant, pas... c'est un grand regret. Et puis voilà, donc c'est, je crois qu'ils figureront pas ensemble. Ouais. Parce que bon, c'est parti déjà sur du mensonge.
Voilà, donc. Mais ça n'invalide pas le mariage. Imam ouais. Abdelali. Bah,
elle a pas eu sa dot.
Elle n'a pas eu sa dot. Elle est en droit d'annuler non. son mariage.
Ah, ça peut, ça invalide.
Ah non, ça passe, ça invalide.
Ah ça, oui, elle a pas eu sa dot.
Ça lui donne le droit de l'annuler. C'est pas une invalidité. Attention, faut distinguer l'invalidité de l'annulation. C'est-à-dire que le mariage est valable, il n'est pas d'accord. non valide. Ouais. Il est valide, mais elle est en droit de l'annuler.
Après, oui, mais maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble.
Elle a qu'à prendre ses affaires et partir. C'est elle qui veut. Elle fait ce
non, c'est lui qui est venu s'installer chez elle.
Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame?
Avec un bon balai.
Mais le problème, c'est que bon, elle dit ça, mais on voit qu'elle tient à lui, donc c'est très dur de. Elle a du mal à se séparer de lui.
Donc parce qu'elle l'aime.
Oui, voilà, mais bon, moi je trouve pas que c'est pas de l'amour sale, c'est quelqu'un qui n'assume rien, voilà. En plus, il n'assume rien.
Attendez, madame, non, madame, elle, la femme aime son mari, ouais. mais peut-être que lui, c'est pas réciproque, qu'il manipule sa femme et. Il n'a pas de sentiment pour elle, il profite d'elle et c'est tout.
Ah, s'il s'aime.
Oui, ouais. mais ça, mais bon, c'est un homme pas responsable, on va dire.
Non, au niveau des... Donc il aime quand même sa femme et il a profité d'elle.
Voilà, exactement. C'est...
Mais
voilà.
Il l'aime quand même.
Il s'aime. Il s'aime.
Les tranquilles.
C'est le principal, oui. Bon, ouais. voilà. Franchement. Ouais, il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas.
Il n'y a pas que ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, le couple, il n'y a pas que je t'aime ou tu m'aimes. Après, il y a tout un reste derrière.
D'accord, on va laisser mon numéro de téléphone, si vous le permettez, madame, pour que les auditeurs puissent m'appeler hors antenne, si vous le permettez.
D'accord.
Alors, voilà. D'accord. J'invite tout le monde à prendre de vos stylos, de noter bien mon numéro de téléphone, le 06 29 25 35 00.
Non, répétez-le une fois.
Ouais, le numéro. Donc, notez bien, le 06 29... 25 35 00. Bien sûr, pour la Umra, pour le Hajj. Le Hajj, cette année, on a commencé les inscriptions. C'est bon, hein, on va pouvoir l'organiser. Et aussi, les Hajj par délégation et les Umra par délégation. Les Umra par délégation, une personne décédée, une personne très malade. Vous voulez financer un Umra, une Umra ou un Hajj, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00.
Allez, dans un instant, Imam Abdelali, ce sont vos petites annonces que vous passerez en direct sur Beur FM. Et là, pour passer votre annonce, eh bien, vous composez le 01 53 48 3000. Imam Abdelali, on vous dit à la semaine prochaine pour l'Islam au présent.
Retrouvez l'Islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.